Philippe-Vincent Foisy. Une nouvelle perspective de l'information.
Cube Radio.
Projet de loi 96 a été adopté. C'est maintenant la loi 96 pour la langue française. On va en parler avec le ministre responsable de la langue française, de la laïcité, Simon Jolin Barrette, parce que il y a beaucoup de questions qui sont pas claires quand vient le temps de parler de cette nouvelle loi-là. On a entendu pas mal d'affaires. On va essayer d'avoir la vérité ce matin. Monsieur Jolin Barrette, bonjour.
Bonjour.
J'ai plusieurs questions sur plusieurs dossiers. J'aimerais ça qu'on les clarifie, notamment sur les médecins. Les médecins et leurs patients. On entendait tantôt Patrick Brown. On entend beaucoup dans la communauté anglophone. Le Collège des médecins aussi a dit qu'il est inquiet par rapport à ça. Est-ce qu'un médecin va pouvoir parler à son patient dans une autre langue que le français?
La réponse à cette question-là, c'est oui. Il n'y a aucune ambiguïté dans le projet de loi. Et il y a beaucoup de faussetés qui sont dites présentement relativement au projet de loi 96. Rien dans le projet de loi 96 ne change l'article 15 de la loi sur la santé et les services sociaux, qui fait en sorte que...
Mais pourquoi le Collège des médecins est inquiet et pourquoi il y a eu ces préoccupations-là?
Écoutez, il n'y a aucune inquiétude. J'ai même déposé un amendement dans le projet de loi 96 pour faire référence à la prérogative de l'article 15 de la loi sur la santé et les services sociaux, alors que ça dit que les Québécois peuvent se faire servir en anglais dans le cadre de services de santé. Rien ne change, c'est le statu quo pour les services de santé en anglais. Alors, toute personne au Québec qui souhaite obtenir ses services de santé en anglais peut le faire en vertu de l'article 15 de la loi sur la santé et les services sociaux. Je ne peux pas être plus clair que ça. C'était pas inscrit au départ dans le projet de loi parce que c'était pas nécessaire de le faire parce que la loi ne s'appliquait pas à ça. Mais j'ai même déposé un amendement pour le clarifier ou pour en faire nommément une exception.
Sur l'Office québécois de la langue française qui a été traité de Gestapo et autres, il y a un article qui retient l'attention, qui dérange, 111.3, où on dit qu'on peut, avec l'Office québécois de la langue française, utiliser tout ordinateur, matériel électronique qui se trouve sur les lieux pour fouiller à l'intérieur de ces ordinateurs-là, téléphones, appareils électroniques et autres. Est-ce que l'Office québécois de la langue française, s'il y a une plainte, peut rentrer dans un bureau comme le nôtre ici puis se mettre à fouiller sur les ordinateurs sans mandat?
Bon, premièrement, c'est pas de fouille, c'est pas de perquisition. Et le libellé que vous venez de dire, c'est pas le libellé de l'article. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'OQLF n'a jamais eu de pouvoir de saisie ni de pouvoir de perquisition dans le cadre de la loi 101, et il n'en a pas non plus dans le cadre du projet de loi 96. La disposition à laquelle vous faisiez référence vise à actualiser la disposition parce que ce pouvoir-là, le même pouvoir, il existait à l'époque en 1967, sauf qu'il n'y avait pas d'ordinateur puis il n'y avait pas d'informatique. Il n'y avait pas d'Internet. Alors, on est venu actualiser la disposition parce que l'OQLF a le droit, a le pouvoir de vérification de l'application de la loi. Ça veut dire que c'est la même chose qu'un inspecteur de la CSST qui va vérifier les règles en matière de santé et sécurité sur un lieu de travail. C'est la même chose qu'un inspecteur de la Commission de la construction du Québec qui va vérifier les cartes de compétences.
Mais ça veut dire quoi dans le concret? Est-ce qu'on peut rentrer dans un bureau puis dire, vous parlez-vous en français, vous êtes techniquement un bureau avec un nombre X d'employés, vous devriez vous écrire en français. On peut pas faire ça?
Je vous donne un exemple. Une entreprise qui est visée par l'application de la Charte de langue française, une entreprise de 50 et plus et qui doit mettre en place un programme de francisation, il doit avoir des communications, supposons, avec ses employés en français en vertu de la loi. L'inspecteur de l'OQLF va pouvoir demander à un employé qui utilise l'ordinateur de la compagnie, en lien avec les documents de la compagnie, de lui montrer les documents de la compagnie, de demander de faire la vérification des outils de l'entreprise. Ça sera possible de faire. On est dans le cadre d'une vérification. Il n'est aucunement question d'aller dans des cellulaires personnels, d'aller dans des ordinateurs personnels. Tout est relié aux documents de la compagnie, mais désormais, le support des documents d'une compagnie ne sont plus uniquement papier, ils sont également informatiques et c'est pour ça qu'on permet à l'inspecteur de demander à un employé et c'est l'employé.
Est-ce qu'il peut refuser?
Dans le cadre du pouvoir de vérification de la loi, il peut avoir une contestation de la part de l'entreprise si jamais la vérification, elle serait abusive et ça, les compagnies pourraient s'adresser aux tribunaux pour faire contester une vérification qui serait abusive comme dans n'importe quel autre situation. Je donne l'exemple d'un inspecteur du ministère de l'Agriculture qui va vérifier la salubrité des lieux et des aliments dans un restaurant ou dans une épicerie. Toutes les lois au Québec, il y a des pouvoirs de vérification. Ce ne sont pas des pouvoirs de perquisition ni de saisie. Ce sont des pouvoirs de vérification.
Sur le 6 mois pour avoir des services en français, donc si on a un réfugié qui arrive ici, qui, après 6 mois, maîtrise pas encore bien le français, qu'est-ce qu'on va faire à la SAQ, par exemple, avec eux? Est-ce qu'on va leur parler en français, puis tant mieux qu'on prend, ou il va y avoir de la flexibilité? Ou parce que de la façon dont on lit en ce moment, c'est si tu parles pas français après 6 mois, débrouille-toi, mon chum. Là.
Non, c'est pas ça qui est indiqué dans le projet de loi. Dans le fond...
Ben pas avec ce libellé-là.
Ce qu'il faut faire, c'est que l'État québécois, là, il y a un bilinguisme institutionnel au sein de l'État québécois. Donc, ce qui arrive, c'est que si on veut intégrer en français les personnes immigrantes, il faut faire les efforts pour vraiment travailler à les intégrer en français. Donc ça veut dire développer des outils pour les amener à choisir, à aimer le français, parce que notre plus grand défi, c'est le taux de substitution linguistique vers le français. Ça veut dire le taux de transfert linguistique. Quelle langue les personnes migrantes vont choisir? Et actuellement, on n'est pas dans un niveau suffisant. On devrait atteindre 90% pour assurer la pérennité du français. Et là, malheureusement, on est autour de 55%. Alors, il faut déployer tous les efforts pour que les personnes migrantes choisissent le français. C'est pour ça qu'on se garde une marge de manœuvre de 6 mois. Pour faire en sorte pour les services d'accueil. Pour
mais au-delà de 6 mois.
Tout ça. Mais actuellement, on sert déjà des gens au Québec qui ne parlent ni français ni anglais et on leur donne les services publics et ça ne changera pas. On va trouver une façon de donner les services publics. Par contre, dès le départ, on va s'adresser à eux en français, on va les accompagner pour leur donner le service public, mais ultimement, s'il y a incapacité de communiquer, il y a d'autres alternatives. On pourra avoir recours à des traducteurs, à des interprètes. Cependant, il faut cesser d'utiliser systématiquement l'anglais lorsque la personne ne parle pas le français. Il ne faut pas utiliser cette langue auxiliaire-là. On pourrait utiliser la langue maternelle de la personne. Je donne un exemple, si la personne est d'origine hispanique et parle espagnol, ou si elle parle portugais ou mandarin, on peut utiliser sa langue maternelle également, mais il faut arrêter d'avoir le réflexe comme état d'utiliser systématiquement l'anglais, parce qu'il faut mettre fin au bilinguisme institutionnel de l'État. Et ça fait part de l'exemplarité de l'État. On est le seul État en Amérique du Nord d'être officiellement francophone. Il faut préserver cette langue-là. Il faut mettre fin au bilinguisme institutionnel. Et c'est ce qu'on fait avec cette disposition.
Et une dernière sur la contestation fédérale. Là, ils vont contester la loi 21 sur la laïcité. Ils risquent de le faire aussi pour 96. Avez-vous l'impression qu'on se dirige vers un autre échec du Lac-Meach ou vers une autre confrontation fédérale, provinciale, qui fait en sorte que le mouvement nationaliste pourrait en sortir revigoré, comme notre collègue Mathieu Bocoté le soutient, là?
Ben écoutez, je suis pas dans l'analyse de ces conjectures-là. Je vous dirais plutôt que c'est pas des affaires du gouvernement fédéral. Ils n'ont pas à se mêler de ces dossiers-là. Ce sont des lois québécoises, la loi 21, la loi 96. Les élus à l'Assemblée nationale qui ont été élus par le peuple, par la nation, ont fait des choix. Le gouvernement fédéral devrait se mêler de ces affaires.
Monsieur Jolin Barrette, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Bonne journée.
Au revoir.